Métaphysique, 5 juin 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
C'est le TGV qui a eu 30 minutes de retard. Pouvez-vous faire la différence entre le poion et le pos? Très difficile. Alors, j'ai pas envie de le faire maintenant. Vous voyez, en un mot, le poion serait d'ordre qualitatif. Et le pot, c'est beaucoup plus général. Alors, à l'intérieur du pot, on pourrait dire qu'il y a un poion qualitaire, comme dit saint Thomas dans la Somme. Il y a le commodo et le qualitaire. On retrouve exactement les mêmes expressions. Hein? Alors, c'est intéressant de voir ça. Peut-on rapprocher diathésis et exis de puissance et acte? Pas trop. Ce n'est pas la même distinction, il faut faire attention. La puissance et l'acte, c'est une distinction qui se prend du côté de la finalité, tandis que diathésis et exis, ça se prend du côté de la cause matérielle et de la cause formelle. Donc il ne faut pas faire la même distinction, il faut faire attention. Mais il faut s'habituer à arriver à distinguer bien ce qui est distinction qui se prend de la fin. Et l'être en acte, c'est une distinction qui se prend selon la fin, au télos, la fin. Et être en puissance est totalement ordonné à l'être en acte. Tandis que si vous prenez disposition, diathésis, disposition, ex parte matérielle, bien comprendre ça. Ex parte matériel, la disposition. Toute disposition se prend du côté de la matière, pas du côté de la fin. Alors, évidemment, on peut dire que la disposition est d'une certaine manière en puissance vis-à-vis de l'exis. D'une certaine manière. C'est vrai. Elle est, par rapport au mouvement, elle est mobile, alors que l'exis, l'habitus, l'habitus. C'est évident que l'habitus se prend du côté de la forme. Donc c'est beaucoup plus la distinction matière et forme. C'est la distinction matière et forme. Diathésis, exis, c'est du côté de la forme. Tout ce qui ne sont capables d'exeil, ne sont capables de l'exis que les facultés spirituelles. L'intelligence et la volonté. Et tout ce qui dépend de l'intelligence et de la volonté. Donc, c'est du côté beaucoup plus de la forme, ce qui détermine l'esprit. C'est l'esprit. Tandis que la diathésie, c'est du côté de la matière. Alors, évidemment, il y a des analogies entre les deux. Saint Thomas n'hésite pas de faire des analogies entre les deux, en disant la distinction entre la matière et la forme est analogue à la distinction entre la puissance et la... C'est vrai, je peux le faire. Mais il faut faire attention de ne pas trop jongler d'analogie en analogie. Au bout d'un certain temps, on ne sait plus très bien où on est. Alors il vaut beaucoup mieux toujours revenir à ce qu'il y a de premier dans une distinction. Ça, il faut s'habituer à ça. Quand on fait une distinction, il faut toujours s'habituer à partir de quoi on fait cette distinction. Puis ensuite, vous pouvez faire des analogies. Il est évident que ce qui se prend de la matière est en puissance. Ce qui se prend de la forme est en acte. Oui. Mais ça n'avance pas à grand-chose, voyez. Ça n'avance pas à grand-chose à faire ça. Parce qu'il faut plutôt regarder la distinction dans ce qu'elle a de propre. Ensuite, vous pouvez faire autre chose. Voyez. Alors, c'est évident, peut-on rapprocher? C'est sûr, on peut rapprocher. Mais... voyons bien la distinction. C'est la première chose à faire. Peut-on dire qu'il y a moins de distance entre le principe et la modalité, et sa modalité, au niveau pratique qu'au niveau spéculatif? Je ne sais pas comment comme question. Mais bon, entre le principe et sa modalité. Y a-t-il une distinction moindre? Oui, si vous voulez, de cette manière que quand vous êtes du côté pratique, c'est toujours le point de vue de l'exercice qui est impliqué dedans. Connaissance pratique implique toujours le point de vue de la finalité, donc le point de vue de l'exercice. Si l'exercice est impliqué dedans, évidemment, on est plus proche du mode qui montre le point de vue du conditionnement, qui est lié aussi à l'exercice. Alors, je veux bien. Je dirais que c'est vrai. Comme tu restes ordinairement, c'est toujours comme ça. Dans l'ordre de la connaissance pratique, les distinctions sont moins pénétrantes. La connaissance pratique va moins loin que la connaissance spéculative. Donc, il est normal que des distinctions qu'on fait en connaissance pratique vont moins loin que des distinctions qu'on fait en connaissance spéculative, qui vont plus loin. Vous voyez, mais là encore, ça n'avance pas à grand-chose. Quelle différence entre l'ordre de nature et l'ordre de perfection? Ça dépend. L'ordre de nature et l'ordre de perfection, de temps en temps, ça dépend l'un pour l'autre. Alors, il faut regarder le contexte. Que l'ordre de nature peut être un ordre de perfection. Quand on prend l'ordre génétique et l'ordre de nature. Ordinairement, quand on prend l'ordre de nature, on insiste plus sur l'aspect de la forme. Quand on dit l'ordre de perfection, on insiste plus sur l'aspect finalité. Donc c'est des nuances importantes, mais c'est plutôt ça. Puisque la perfection implique l'acte, et l'acte implique le point de vue de la fin. Tandis que la nature, sans qu'on précise, c'est avant tout la détermination. L'ordre génétique se prend toujours du côté matériel. Alors la matière, vous comprenez, la matière peut s'opposer à la forme, mais peut s'opposer aussi à la fin. Alors je dirais, l'ordre de perfection, c'est toujours le point de vue de la fin. Le point de vue de l'ordre de nature, ça peut être la forme, ça peut être la fin. Et l'ordre génétique, c'est toujours ex parte matériel. Je réponds rapidement. Alors maintenant, continuons cette petite recherche sur le point de vue de la qualité. Je vous ai dit, le grand philosophe de la qualité, Platon. Et quand vous avez le courage de relire tout Platon, relisez-le sous ce point de vue-là. Il y a deux axes dans Platon, hein. L'axe de l'âme et l'axe de la qualité. Et ça, ce serait intéressant de bien voir ça. On doit étudier le platonisme et qu'on étudie. Il faut une fois dans sa vie avoir lu, dans sa vie philosophique, hein, c'est-à-dire dans vos études philosophiques, votre vie philosophique, vos 3 années, hein, il faut avoir une fois quand même, normalement, je ne dis pas avoir lu toutes les dialogues de Platon, mais en avoir lu au moins 5-6. Et autant que possible, si vous pouvez tout lire, c'est bien. Alors, lisez-le en posant des questions. Mais il faut avoir lu quelques dialogues de Platon. Ça fait partie de la culture philosophique. Et c'est très reposant. Sauf le sophiste, sauf le Parménide. N'est-ce pas ? Mais en dehors de là, c'est plutôt reposant, plutôt qu'Aristote. Ça se lit un peu plus vite. On doit lire Platon un peu plus vite qu'on dit Aristote. Aristote, il faut le lire en analysant. Platon, c'est plus descriptif. Le philosophe de la qualité qui analyse, c'est Aristote. Alors, il y a un grand lieu auquel il faut revenir tout le temps, les catégories. Et je crois que les catégories sont particulièrement intéressantes par rapport à la qualité. Puisque c'est descriptif, les catégories. Et que ce qu'il y a de plus descriptif, c'est la qualité. Demandez aux artistes. C'est le lieu de l'artiste, les qualités. Et c'est le lieu de rencontre du philosophe et de l'artiste. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que Platon, qui est un philosophe artiste, pour ne pas dire esthétique, c'est le philosophe des qualités. Tous les philosophes qui seront pris par le point de vue artistique seront des philosophes de la qualité. et ordinairement ne dépasseront pas beaucoup. La qualité étant la forme par excellence, comme nous le verrons. Dans les catégories, Aristote après, donc la quatrième, hein, je vous ai vu la quatrième, j'ai dit la figura, schéma. Quatrième genre de qualité, la figure. Et Aristote ajoute, la figure est la forme, morphée. Celle qui appartient à chacun et de plus, la droiture, la courbure et tout ce qui lui est semblable. Un être, en effet, est qualifié d'après toutes ses déterminations. Donc il est poion. Il est qualifié, il est tel d'après cela. Une chose n'est-elle pas dite avoir telle qualité parce qu'elle est triangulaire? Alors, quant aux rares et aux denses, aux rugueux et aux polis, Aristote, toujours dans les catégories. C'est intéressant de voir ça parce que c'est peut-être à ces moments-là qu'on voit le mieux ce que c'est que les catégories. Il faut avoir des tiroirs bien rangés. Alors, il y a des choses que vous rangez très très bien. Et puis il reste toujours un petit résidu que vous n'avez pas très bien rangé. Et c'est à ce moment-là que votre finesse intellectuelle, d'ordre pratique, va se manifester. Ici, ça va être la même chose. Les résidus, c'est-à-dire les miettes, vous comprenez, c'est les choses secondaires. C'est pas, il y a les grosses choses, très bien. On a ces 10 casiers, très bien. Chacun met un nom. Alors, vous avez, ici aussi, vous avez 10 casiers. Un philosophe devrait avoir un bureau avec les 10 prédicaments. Mais, alors, les 10 casiers, les 10 prédicaments. Alors, il y en aurait un qui serait le fourre-tout par derrière, l'habitus dernier, c'est le fourre-tout, on met tout dedans. Alors, quant aux rares et aux denses, aux rugueux et aux polis, ils semblent signifier une chose de telle qualité. Mais en réalité, ces déterminations expriment plutôt la position thésis des parties. Aristote précise, une chose est dense par l'étroite union de ses parties entre elles. Assez particulier pour moi ce que c'est que le dense. Alors, il faut secouer pour voir si ça colle bien. L'étroite partie entre elles, autrement dit. Cela est très significatif et nous révèle le discernement du philosophe qui entend bien distinguer la qualité de la position des parties. Seule la qualité qualifie la réalité. La seule position des parties ne qualifie pas. Mais les résidus. C'est intéressant. On voit le partage des eaux. Est-ce que ça qualifie? Parce que c'est simplement une thésis, une position. Être assis, être debout, est-ce que c'est une qualité? Être à genoux, est-ce que c'est une qualité? Thésis, position, ce n'est pas une qualité. Mais vous pouvez être bien assis, bien à genoux. Vous voudrez vous endormir à genoux. À ce moment-là, le point de vue de la position de la thésis devient qualifié de telle ou telle manière. Il y a des gens qui s'assiedent noblement, il y a des gens qui s'assiedent à la manière d'Agathon. Moi, ça dépend. Il y a des gens qui sont à genoux avec dignité et des gens qui sont affalés à genoux. Oui, la thésis peut se qualifier. Ce n'est pas la thésis qui qualifie. Ce n'est pas la position qui qualifie. C'est ça que ça veut dire. Dans son énumération, Aristote ne prétend pas être exhaustif. Ça, c'est aussi très intéressant. On pourrait sans doute découvrir d'autres modes de qualité, dit Aristote. Ceux-ci sont les principaux et les plus fréquents. Ah, ça, c'est très important. Vous voyez comme Aristote est peu catégorique, là. Et quand il s'agit des qualités, il montre bien que on pourrait sans doute découvrir d'autres modes de qualité. Ceux-ci sont les principaux et les plus fréquents. Donc, ce n'est pas du tout, on a fait des catégories quelque chose de beaucoup plus rigoureux qu'Aristote ne le pensait. Ce sont des modes, des manières d'être que nous saisissons tout de suite, directement. Et ça permet une classification. Voilà, c'est le grand, la chose merveilleuse des catégories. Donc ce n'est ni le langage pur, ni la connaissance philosophique. C'est pré-philosophique. Et c'est pour ça que ça reste un peu vague, comme toute description. Toute description, ça paraît vague, parce que si vous changez de position, Si vous regardez les choses à contre-jour ou au contraire dans le bon sens, c'est tout à fait différent. Si vous la regardez sur le côté, en haut ou en bas, c'est tout à fait différent. Il y a ça dans les qualités, il y a ça dans les catégories. Vous regardez une réalité, vous regardez l'homme, parce que les catégories, c'est pour l'homme. Eh bien, il y a des choses différentes qui peuvent apparaître qualités et qui, au fond, le sont plus ou moins. Revenant sur les rapports entre la qualité et ce qui est qualifié, Aristote note que dans la plupart des cas, presque tous, le nom de la réalité qualifiée est dérivé de la qualité. La blancheur a donné son nom à blanc. Ah, alors voilà, ça pose des tas de problèmes. La blancheur a donné son nom à blanc. Vous voyez, c'est l'inverse de tout ce que nous avons dit jusque maintenant. J'espère que vous le sentez. Je vous disais... C'est intéressant de revenir toujours à ça. C'est des choses tout à fait élémentaires. Alors, blancheur, je n'en ai pas l'expérience, vous non plus. Vous avez l'expérience du blanc du mur. Vous avez l'expérience du blanc. Donc, normalement, vous connaissez la blancheur par le blanc. Nous sommes tous d'accord. Puis surtout, si vous plongez un tout petit peu plus, vous mettez S, SC. C'est ça que vous êtes habitué. NCC. N, ce qui est, je vais traduire selon ce que saint Thomas dit, id quod est, et SC, il existe, et pour le mieux, l'être. C'est encore mieux. Bien, vous ne connaissez, vous n'avez pas d'expérience de l'être. Vous avez l'expérience de ce qui est. Vous n'avez pas d'expérience de l'être. Vous avez une expérience. Vous avez l'expérience du blanc du mur, vous n'avez pas l'expérience de la blancheur. Alors vous voyez, c'est une chose curieuse. Hein? Donc je connais la blancheur par le blanc. Je connais l'essai par l'ens, ce qui est. Et Aristote ajoute ici, la blancheur a donné son nom à blanc. Si ceci est vrai, ça prouve que la blancheur est plus connue que blanc. Blanc est dénommé blanc à cause de la blancheur. Pourquoi ? Parce que la blancheur, c'est quoi ? C'est ce par quoi le mur est blanc. C'est ce par quoi le mur est blanc. Donc, c'est très vrai. Le mur est dénommé blanc à cause de la blancheur. Il est dénommé blanc. Il est qualifié blanc. Et donc, c'est bien le nom. Alors, si le nom est premièrement ici, dans la blancheur, et ce bien deuxièmement ici, alors qu'au point de vue de la connaissance, j'ai dit l'inverse. La blancheur est connue par le blanc. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce qu'il peut répondre ? Vous voyez bien, là, ça apparaît contradictoire. Hein, ça, c'est des petites questions merveilleuses d'examen. Oui. On voit tout de suite si vous avez pillé quelque chose ou pas. Parce que là, on renverse le chemin. Ça, c'est l'aller-retour. Et l'aller-retour, c'est toujours très dépaysant quand on est dans la famille. C'est toujours très dépaysant. Pour l'aller, on l'a vu, mais il s'agit de revenir. Alors, si on n'est pas comme un petit poussé, on s'y perd parce qu'on n'avait rien vu avant. Alors, si on a mis les petits cailloux, ça va. Mais si on ne les a pas mis. Alors vous voyez bien, vous voyez le problème. Réfléchissez là-dessus. C'est très, très, très bête, hein, comme tous les problèmes astucieux. C'est très... Vous voyez, je dis, je ne connais la blancheur que par le blanc. Vous êtes tous d'accord, puisque la blancheur n'existe pas. Donc, je n'ai pas d'expérience de la blancheur. Aucune. Je ne connais la blancheur que par le blanc. Je ne connais l'essai que par l'ens. Or, ici, blanc est dénommé par blancheur. Le nom blancheur dénomme blanc. Donc, c'est la blancheur qui fait connaître le blanc. L'expérience, la formalisation... Et la formalisation permet de déterminer. Tôt, Einein. Alors, Tonoein, c'est To Einein et Tonoein. To Legein. Et on a de la détermination. Oui. Je dénomme. Dénommer présuppose une formalisation. C'est en formalisant que je dénomme. Et c'est pour ça que je peux dire que Blanc est dénommé par Blancheur. Et c'est est dénommé par Hans. Je dis ça, c'est parce que c'est très important. Des quantités tomies se sont servies de ce langage-là pour dire, vous voyez bien, que l'essai est connu avant l'ens. Très amusant, c'est pour ça que je souligne, parce qu'il y a eu une erreur d'orientation là. Alors, dans l'ordre de la connaissance, j'ai l'expérience, je pars toujours de l'expérience, j'ai l'expérience du blanc, du mur. Cette connaissance, si j'induis, premier type d'induction, c'est-à-dire une formalisation, tous les blancs que je connais, jusqu'au persil, tous les blancs que je connais, tous les blancs que je connais, le blanc idéal que je connais, donc là, tous les blancs que je connais arrivent à formaliser la blancheur. Il y a une certaine induction, et j'arrive à la blancheur. Une fois que j'ai la blancheur, j'ai la forme en soi de blancheur. Et à partir de cette forme, je dénomme le blanc. Oui, donc il y a deux aspects très différents, il y a la formalisation du nom, et puis il y a l'origine de la connaissance. C'est très vrai qu'au niveau de la formalisation, le nom n'est parfait que lorsque j'ai dit blancheur. Parce que là je suis dans l'abstrait. Blancheur est pris en soi, indépendamment du mur, indépendamment de toutes mes expériences de blanc. Alors, donc, au point de vue du nom, le nom est toujours pris per modo substantiae. Le nom est toujours pris par mode de substance. Et donc, il faut que cette forme soit prise en elle-même pour que j'aie le nom. Et à partir de là, je dénomme. Oui. Tandis qu'au contraire, blanc qualifie. C'est un accident. Et blancheur est pris comme un nom. Il est pris en soi. Oui, donc il faut bien réfléchir à ça, parce que ça c'est très astucieux, c'est amusant au point de vue langage, au point de vue de la connaissance, vous voyez. L'ordre de la connaissance n'est pas celui du langage. Alors ça c'est très important. Si je fonde toute ma philosophie sur le langage, vous voyez, à quoi j'aboutirai? J'aboutis à un idéalisme. Parce qu'au point de vue du nom, évident, au point de vue du langage, blancheur a quelque chose de très particulier par rapport à blanc. Parce que blancheur est considéré en lui-même, le premier. C'est une forme en soi. Vous voyez, alors c'est très intéressant pour voir comment Platon est arrivé aux formes en soi. Par le point de vue du langage. Par le point de vue du langage, c'est évident, parce que c'est une formalisation. Tandis qu'au point de vue de la connaissance expérimentale, c'est différent, c'est autre chose. Donc l'ordre de la connaissance n'est pas la même chose que l'ordre du point de vue du langage. Mais cela n'est pas toujours vrai. Donc la blancheur a donné son nom à blanc, mais cela n'est pas toujours vrai. Dans certains cas, il y a un nom spécial pour telle qualité, mais la réalité qualifiée d'après celle-ci porte un nom qui ne dérive plus du sien. Par exemple, l'honnête homme, spoudaios, est tel en raison de la vertu. Il est dit honnête parce qu'il possède la vertu, mais n'est pas dénommé par la vertu. Cela nous indique le rôle important que joue la qualité dans la connaissance que nous avons des réalités. La qualité sert toujours à dénommer les réalités, c'est à partir des qualités qu'on dénomme telles les réalités. Et ça, c'est intéressant à noter. C'est que la qualité a justement ce rôle très particulier dans l'ordre de la connaissance et dans l'ordre du langage. Je vous ai dit, la qualité est du côté, au point de vue artistique, la qualité est première du côté artistique. Alors, dans le langage, il y a quelque chose d'artistique, puisqu'il y a quelque chose de fait. Le langage n'est pas la réalité. Le langage, c'est une œuvre d'art très particulière, mais c'est une œuvre d'art. Il y a l'aspect conventionnel, il y a l'aspect artistique. Donc c'est l'homme qui le fait, et c'est pour ça que dans l'ordre du langage, les qualités jouent un rôle si important. Et là, nous voyons tout de suite blanc, blancheur. Ça, alors, c'est d'une netteté. Alors, il reste à préciser ce que fait Aristote dans les catégories, à préciser les caractères propres de la qualité. Alors ça, je vais aller très rapidement, mais c'est toujours très intéressant. La contrariété appartient à la qualité et aux réalités qualifiées. Par exemple, la justice est le contraire de l'injustice. L'injuste est le contraire du juste. De plus, si l'un des contraires est une qualité, l'autre le sera également. Alors, il faut comprendre que la propriété des qualités, c'est la contrariété. Dès qu'il y a contrariété, il y a qualité. Alors, ça, c'est intéressant par rapport à toute la question de la dialectique et de la contradiction. Vous voyez, c'est très, très intéressant à voir ça. Parce que si vous identifiez être et qualité, vous identifierez contradiction et contrariété. Tous les systèmes philosophiques qui identifient contradiction et contrariété identifient nécessairement qualité et être. Alors c'est un petit critère merveilleux pour les critiques, quand vous essayez de secouer un système philosophique. Il faut comprendre comment le propre de la qualité, c'est d'impliquer la contrariété. La contrariété, vous voyez, c'est au niveau, justement, de deux formes positives. Elles sont contraires, elles s'opposent. Qu'est-ce que ça veut dire, être contraire? Être contraire, c'est-à-dire ne pas être simultanément dans le même sujet. Deux réalités sont contraires quand elles s'opposent d'une manière telle qu'elles ne peuvent pas être simultanément dans le même sujet. Vous avez le mur. Le mur, il est blanc. Est-ce qu'il peut être en même temps noir? Non. Vous avez de l'or. Est-ce qu'il peut être en même temps vertueux et vicieux? Non. Il peut pas être en même temps, c'est la contrariété. La contrariété, c'est à l'égard d'un sujet. C'est dans un sujet. C'est un sujet qui répugne à faire la synthèse des deux. Donc les deux qualités ne peuvent pas être simultanément dans le même sujet. Il y a une opposition farouche entre les deux. Oui, alors, regardez le Parlement, les deux positions, est-ce qu'on peut être simultanément dans telle ou telle partie? Ça peut se poser comme question. Alors à partir de là, vous pouvez voir que le jour où vous pouvez être simultanément, ça prouve que ce n'est plus qualitatif et que c'est quantitatif. Alors ça devient quelque chose de très intéressant à poser comme problème. Les réalités qualifiées sont capables de plus et de moins. Par exemple, une chose blanche est dite plus ou moins blanche comparativement à une autre. De plus, la réalité qualifiée est capable de plus d'intensité. Ce qui est blanc, blanc peut devenir plus blanc. C'est évident, d'où la réclame. Cela n'est pas vrai de toutes les qualités. C'est très philosophique, les réclames. Il faut toujours essayer de comprendre. Il y a toujours une philosophie par derrière. Alors, il faut essayer de comprendre. Il y a du plus blanc. S'il n'y avait pas de plus, s'il n'y avait pas d'intensité, il n'y aurait pas de réclame. Il y a du plus et du moins. Et ainsi de suite. Plus ou moins bon. C'est l'ordre qualitatif. On le goûte comme ça. C'est l'ordre qualité. Cela n'est pas vrai, donc, de toutes les réalités qualifiées, mais de la plupart. Donc ce n'est pas une propriété au sens absolu. La seule propriété de la qualité, c'est la contrariété. Le plus et le moins est très intéressant. Le plus et le moins est très intéressant à noter, mais ce n'est pas vrai de toutes les qualités. Parce que le schéma, la figure, ce n'est pas plus ou moins. Vous avez une des courbes. Vous pouvez dire qu'elle est plus ou moins courbe. Ben oui, c'est sûr, c'est évident. Mais ce n'est pas uniquement la courbure, le schéma, c'est l'ensemble. C'est la proportion. Alors, il n'y a pas de plus et de moins. C'est intéressant de voir que le plus et le moins n'existent pas pour toutes les qualités. La capacité, par exemple. Si telle réalité qualifiée est capable de plus et de moins, la qualité prise en elle-même ne l'est pas. C'est pourquoi, alors ça c'est aussi très intéressant, voyez, la qualité prise, c'est pour ça que ce n'est pas une propriété de la qualité. Donc, je relis, parce que ça, c'est, il faut le saisir. Si telle réalité, au pluriel, si telle qualité qualifiée est capable de plus et de moins, plus ou moins blanc, la qualité prise en elle-même ne l'est pas. la formalisation de la qualité de l'époque. La blancheur n'est pas plus ou moins blanche. Hein ? Vous ne pouvez pas mettre du plus et du moins. Pourquoi ? Parce que la qualité est indivisible. Donc elle ne supporte pas le plus et le moins. Elle est indivisible. Tandis que la qualité, elle, appelle tout de suite son opposé, blancheur noirceur. La contrariété. Donc, c'est le sujet qui supporte du plus et du moins. C'est le sujet qui participe à la blancheur. Ah, alors vous voyez, c'est ça qui va faire apparaître quelque chose de très curieux. Le plus et le moins se prend du côté du sujet, dénommé plus ou moins blanc, participant davantage. Le plus et le moins, il est tout de suite en face du problème de la participation. On y reviendra là-dessus. C'est par là que je dénote la participation. Alors, il y a encore un troisième aspect, c'est de prendre la similitude. La véritable propriété de la qualité, c'est d'être semblable ou dissemblable. Donc il y a la contrariété, et puis semblable et dissemblable. Une telle propriété ne se dit que des qualités. Oui. Contrariété est moins propriété que la similitude. Mais ça se tient. Donc au fond, la propriété parfaite des qualités, c'est la similitude. Qu'est-ce que c'est que la similitude ? C'est d'être un dans la même qualité. Deux êtres sont semblables quand ils ont la même qualité. Vous voyez ? L'égalité, c'est l'unité dans la quantité. La similitude, c'est l'unité dans la qualité. Et l'identité, c'est l'unité dans la substance. Petit langage précis, très important. Vous voyez ? Je reprends. L'égalité, c'est l'unité dans la quantité. On pèse le même poids. Donc on va avoir la même intelligence. Donc c'est l'égalité dans la quantité. La similitude, c'est l'unité dans la qualité. Et l'identité, c'est l'unité dans la substance. Alors là, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Alors, après les catégories, nous allons voir tout de suite ce qu'Aristote dit de la qualité dans la philosophie première. Alors, vous savez qu'Aristote parle dans la philosophie première, dans la métaphysique, Aristote parle des qualités aussi. Et il parle des qualités dans le livre Delta. Vous tous connaissez le livre Delta. C'est un livre très amusant, très intéressant, parce que c'est le livre, c'est la langue. Beaucoup plus intelligent, parce qu'on a progressé dans l'ordre de l'intelligence. Alors, c'est la langue, vous voyez, c'est le dictionnaire des termes philosophiques. Quand vous êtes fatigué, prenez le livre Delta, le livre de métaphysique, et prenez le livre Delta. Et vous cherchez les définitions, principe, cause. Voyez, Aristote donne tout ça. Aristote, c'est intéressé à donner des définitions, du moins pas des définitions, mais exprimer. Eh bien, de fait, quand il s'agit de la qualité, Aristote se pose la question. Il se pose la qualité pour savoir qu'est-ce que ça représente. Donc, dans la philosophie première, Aristote considère la qualité relativement à ce qui est, et comme la première modalité de l'être. Et comme la première modalité de l'être est l'ousia, la qualité est considérée relativement à l'ousia. Et donc la perspective est tout à fait différente. Dans les catégories, toutes les catégories sont considérées relativement au sujet, c'est-à-dire l'ousia première. Dans philosophie première, dans le livre Delta, chapitre 19, Aristote regarde le point de vue de la qualité comparativement à l'ousia. L'ousia étant la modalité première de l'être. Sous cet aspect, la qualité apparaît en premier lieu comme la différence de l'ousia, la diaphora. Ça, nous irons voir ça progressivement, c'est quand même très curieux, c'est tout à fait autre chose. Vous voyez, dans les catégories, on regarde la qualité en temps du côté du legein. La qualité qualifie. La qualité donne le poion. Donc elle qualifie. Tandis qu'au contraire, en philosophie première, Aristote regarde la qualité comme ce qui fait différer. La qualité ennoblit. Elle fait différer. C'est-à-dire que par les qualités, il y a quelque chose en moi qui diffère.